Hola Jérôme.
Salut Jean-Philippe.
Ça va?
Oui, c'est bien.
On va parler IA frugale aujourd'hui.
Ah bah ça tombe bien, je suis en période de sèche pour le body summer. Oh, alors c'est très bien, je vais être frugal moi aussi.
Magnifique. Allez, on se lance?
Allez, c'est parti.
C'est parti. Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils, sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques, un peu techniques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, on va se demander si on peut rendre l'IA un peu plus acceptable d'un point de vue environnemental avec la publication d'une nouvelle norme AFNOR sur l'IA frugale.
Cause Commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne, Olivier Gréco, de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune, que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur ses apps mobiles magnifiques, sur la bande FM 93.1 et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre 3 secondes pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, puis sur Spotify, le petit pouce sur YouTube. Bon, c'est notre seule récompense. Cela nous fait connaître et en plus, ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes.
Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Grâce à la newsletter d'IA Pulse, salut Olivier Martinez, j'ai pu rapidement retrouver les détails des dernières révélations de Google concernant son empreinte environnementale. Les gaz à effet de serre émis par Google ont augmenté ou auraient augmenté de 13% entre 2022 et 2023 et de 48% en seulement 5 ans. Cette augmentation est principalement attribuée à la consommation électrique croissante des centres de données, notamment pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle. L'Agence internationale de l'énergie estime que cette consommation électrique des centres de données pourrait doubler d'ici à 2026. Alors, il compare ça à la consommation du Japon. Et là, on évoque que l'énergie pour les data centers. On ne parle pas ni de la consommation en eau des centres pour les refroidir, ni des ressources nécessaires pour produire les serveurs et les devices qui sont utilisés pour ces IA. Bref, l'innovation a un coût environnemental indéniable, qu'il est désormais nécessaire de prendre en compte et d'amoindrir au maximum. Bon, facile à dire. Mais par où on commence? Eh bien, un petit groupe d'experts s'est réuni autour du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et aussi de l'AFNOR, pour concevoir une spec AFNOR, on va voir de quoi il s'agit, sous la forme d'un référentiel général pour l'IA frugale, afin de mesurer et réduire l'impact environnemental de l'IA. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous et de recevoir la copilote du groupe de travail pour le ministère de la Transition écologique. Elle est ingénieure de formation, elle est chef de projet IA et transition écologique au sein de l'Écolab, le laboratoire d'innovation au service de la transition écologique du Commissariat général de l'environnement et du développement durable. Je reprends ma respiration. Bonjour, Juliette Fropier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en plateau, le plateau de Cause Commune. Alors, parlez-moi d'IA, Juliette, mais d'abord, peut-être présentez-nous l'Écolab, le laboratoire d'innovation au service de la transition écologique. Comment celui-ci aborde les questions, en fait, liées à l'IA? Quelle est sa contribution à la stratégie nationale? Enfin, voilà, comment il travaille sur l'IA, cet Écolab?
Oui, effectivement. Donc, déjà, pour replacer l'Écolab, comme vous l'avez dit, c'est le laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique, qui essaye d'accompagner les projets innovants à la fois dans la sphère privée et dans la sphère publique. Donc avec une partie accompagnement des startups et PME qui développent toutes sortes de projets innovants à la fois du low-tech mais aussi de l'IA, de la data au service de nos politiques publiques de transition écologique. Et c'est aussi le rôle d'Écolab que d'accompagner le ministère, les services du ministère, tous les services métiers. Donc c'est un très gros ministère, le ministère de la transition écologique qui recouvre les transports, l'aménagement, le bâtiment, les affaires maritimes, etc., etc. Et donc, tous ces services peuvent avoir besoin de data, d'IA, pour améliorer leur travail au quotidien, pour gagner en efficacité. Donc, on va accompagner ces services au sein du ministère. On essaye aussi d'encourager les collectivités territoriales, donc les régions, les départements, les villes, à se saisir de l'IA aussi sur le terrain. Donc, toutes les collectivités, finalement, ce sont elles qui font la transition écologique sur le terrain. Et parfois, elles peuvent utiliser l'IA comme un outil intéressant pour mieux connaître ce qui se passe sur leur territoire, mais aussi pour mieux anticiper et ainsi faire des actions d'aménagement sur leur territoire, que ce soit par exemple pour pour les réseaux d'eau, pour la consommation énergétique de leurs bâtiments, etc.
Vous, au sein des collabs, vous êtes combien à peu près ? C'est une équipe de combien, collab ?
C'est une équipe d'une quarantaine de personnes.
Et les profils ?
Des profils d'ingénieurs, data scientist, chef de projet. Et donc moi particulièrement sur l'IA, j'ai élaboré la stratégie IA du ministère à travers une feuille de route IA et transition écologique qui a plusieurs axes, notamment donc je le disais sur les collectivités, sur les entreprises et sur nos services de, en interne. Et puis je fais le lien avec tous les autres ministères. L'IA est un sujet extrêmement transversal, donc on a effectivement beaucoup de travaux en lien avec le ministère de l'économie, le ministère de la santé, de la recherche, de l'enseignement supérieur, etc.
Vous aviez contribué au livre blanc de la communauté des acteurs de l'IA ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est l'Écolab qui a rédigé ce livre blanc. Donc, pour les collectivités, notamment, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, un appel à projet à destination des collectivités locales pour mettre en œuvre l'IA au service de la transition écologique. Et donc, c'était, on venait financer des projets d'IA dans les territoires, mais derrière, pour faire en sorte que ces projets diffusent, que d'autres collectivités s'en saisissent, on avait monté cette communauté et on avait mis à disposition donc des bonnes pratiques pour monter des projets d'IA en collectivité au service de la transition écologique, parce que bien sûr, dans les collectivités, c'est un sujet nouveau, l'IA, et il y avait besoin de ressources finalement pour s'en saisir.
Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Dans le pire des cas, vous savez quoi, on fera une émission spéciale sur ce sujet. Si vous voulez retrouver ce qu'on s'était dit sur la communauté des acteurs de l'IA avec Céline Colucci, c'est le Parlez-moi d'IA numéro 12, tout simplement. Ok, bah très bien, on comprend mieux du coup comment Écolab se place dans la sphère globale autour du ministère. Alors du coup, si on rentre un peu dans le vif du sujet, comment cette nécessité de créer cette spécification finalement a vu le jour ? Pourquoi tout d'un coup on se dit, allez, il faut qu'on crée une spec ? Qui est-ce qu'on met autour de la table pour faire ça ?
Oui, donc j'ai évoqué un appel à projet, démonstrateur d'IA au service de la transition écologique dans les territoires. Et dans cet appel à projet, le ministère est venu financer des projets d'IA assez concrets. Et bien sûr, en disant on veut faire de l'IA au service de la transition écologique, il nous a apparu très tôt qu'on ne pouvait pas faire de l'IA au service de la transition écologique sans penser, bien sûr, l'impact environnemental de l'IA lui-même, avec une contrainte forte donc sur une analyse coût-bénéfice, le bénéfice de l'IA pour la transition versus son coût, et bien montrer donc qu'on avait un apport qui était supérieur à son coût. Pour faire cela, on a demandé à donc tous les candidats aux appels à projets d'utiliser un outil qui s'appelle Green Algorithm, qui est en ligne, qui est open source, qui permet d'estimer la consommation énergétique et l'impact carbone de l'entraînement et des inférences des modèles d'IA. Et en fait, ce qu'on a vu assez vite, c'est que les chiffres qui nous étaient remontés lors de cet appel à projet n'étaient pas du tout comparables, parce que les différents candidats avaient rempli l'outil de manière pas tout à fait similaire. Donc certains, par exemple, pour l'entraînement, prenaient en compte toute la phase d'entraînement, donc en prenant en compte des modèles intermédiaires, des recherches d'hyperparamètres qui prennent du temps et qui consomment aussi de l'énergie, de la ressource, quand d'autres prenaient en compte juste l'entraînement du modèle final. Sur les inférences, certains regardaient une utilisation par mois, par année, oui, juste par inférence.
Chacun faisait ses choix, en fait, pour voir ce qu'il voulait mesurer, et avec une homogénéité pas totale, quoi.
Exactement, chacun faisait sa méthode, et derrière, on a regardé s'il existait déjà des méthodologies partagées. On sait que quand on mesure un impact environnemental, généralement, on a donc des méthodes partagées, ce qui s'appelle des référentiels de catégories de produits. On en a une qui existe déjà, qui a été publiée par l'ADEME sur les services numériques, qui est très globale. Mais il nous semblait qu'au vu des spécificités de l'IA, il manquait quelque chose de vraiment partagé, consensuel sur comment on mesure l'impact environnemental de l'IA. Et il y avait cette volonté donc d'avoir cette méthode sur du quantitatif, mais derrière, comme les articles finalement affluent sur le domaine de l'IA, mais qu'on n'a pas encore aujourd'hui de consensus sur toutes les bonnes pratiques qui sont possibles pour une organisation à mettre en place, on s'est dit qu'il fallait faire à la fois une partie quantitative sur un référentiel méthodologique et à la fois un recensement des bonnes pratiques qui sont partagées par la communauté.
Et ça, vous l'avez fait avec de très nombreux acteurs.
Tout
Il y a
fait.
Beaucoup de monde autour de la table. À partir de quel moment exactement ?
Alors, on a fait une réunion de lancement le 15 janvier.
C'est ça, dès le début de l'année, quoi, tout simplement.
Dès le début de l'année.
Et l'aspect est déjà publié.
On s'est mis une contrainte très forte en temps parce qu'on sait que l'IA va très vite.
Ouais.
Voilà, on a tous les jours de nouveaux modèles, de nouvelles fonctionnalités. Et on se disait qu'on ne pouvait pas attendre. Donc, dès le début, on s'est dit, il faut qu'on fasse en 6 mois.
Donc, beaucoup de monde autour de la table, des universitaires, des écoles, des instituts de recherche, mais aussi des clusters d'entreprises, des entreprises. Est-ce que vous pensez que les entreprises innovantes, elles sont prêtes à finalement regarder et à développer leurs produits, je vais utiliser un gros mot, sous contrainte environnementale? Est-ce qu'elles sont prêtes
alors...
déjà?
Déjà, est-ce qu'il faut le voir comme une contrainte? Pas forcément. Mais oui, effectivement, je pense que déjà, on avait autour de la table un grand nombre d'acteurs, surtout français. Et aujourd'hui, on cherche des éléments de différenciation aujourd'hui sur nos offres françaises en IA. Et on a des clients, je pense, en France, qui sont assez regardants sur l'impact environnemental, ne serait-ce à commencer que par la puissance publique.
J'allais vous dire, la commande publique...
Voilà, qui est fortement consommatrice, qui va être et qui l'est déjà consommatrice d'IA et qui va acheter donc des systèmes d'IA et qui va demander du coup des choses derrière, des allégations, des mesures de l'impact environnemental, des modèles qui lui seront proposés. Et donc, ces entreprises, elles sont finalement assez demandeuses de pouvoir se différencier sur ces sujets-là. Et de toute façon, on a aussi à l'intérieur de ces entreprises juste des personnes que ça intéresse, qui n'ont pas envie de développer de l'IA pour de l'IA, mais qui ont bien envie aussi de penser cet impact environnemental et donc l'usage qui est derrière aussi.
C'est un secteur qui est très accompagné en ce moment, qui est très aidé. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, ces aides, elles soient tributaires aussi de cette façon d'aborder l'IA, d'être un peu plus frugale pour pouvoir obtenir les aides conséquentes?
Oui, tout à fait. Donc, il y a un très grand volet de France 2030, qui est le programme d'investissement de l'État qui est dédié à l'IA. Donc, le programme dont je vous parlais, la démonstrateur d'IA pour la transition écologique, il fait partie de France 2030. Et il a été pionnier dans l'intégration de critères environnementaux pour donc l'évaluation des projets. Maintenant, sur tous les appels à projets sur l'IA générative notamment, et on sait que l'IA générative est la technologie d'IA qui est la plus fortement consommatrice de ressources, on aura ces mêmes critères environnementaux qui se baseront aussi en plus maintenant sur le référentiel.
Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Cette spec, donc c'est pas une norme, c'est pas un règlement, c'est une spec. Alors c'est quoi une spec AFNOR? Si vous pouvez nous expliquer ce que c'est une spec AFNOR, c'est quoi? C'est un consensus?
Oui, alors une spec, c'est une quasi-norme, on va dire. C'est pas encore une norme parce que une norme prend du temps. Et il nous paraissait pas opportun aujourd'hui de faire une norme franco-française. On pourra en reparler, mais sur le règlement IA, il y a une demande de normalisation qui va être faite sur le sujet de l'impact environnemental et notamment de la consommation énergétique et en ressources des systèmes d'IA. Et donc, ce qu'on voulait, via la spec AFNOR, c'est avoir une pré-norme qui nous permette, à la fin, d'avoir un document qui a été élaboré avec un grand nombre de personnes qui a dû donc obtenir un consensus, document qui nous servirait de base, ensuite, pour le porter au niveau européen. Et là, cette fois-ci, vraiment rentrer dans la normalisation qui peut être des processus.
C'est les Français qui proposent le document martyr?
Exactement.
De cette réflexion-là.
Exactement, c'était volonté que la France, de manière générale, sur l'impact environnemental du numérique est très en lead. C'est quelque chose qui est assez peu regardé par les autres pays. Et sur l'impact environnemental de l'IA, il me semble qu'il faut qu'on pousse cette ambition d'avoir une méthodologie partagée le plus vite possible.
Alors, quand on fait une spec comme ça, le premier élément qu'on doit mettre en avant, c'est de se mettre d'accord sur les définitions. Donc, il y a un gros travail de définition. Pour vous, c'est quoi les définitions les plus importantes sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord, finalement?
Oui, alors, les définitions qui ont pris le plus de temps, finalement, elles sont dans le titre. C'est l'IA frugale. Qu'est-ce
d'accord.
qu'on met derrière?
Rien à voir avec la sèche. Comment vous pouvez l'évoquer en introduction?
Non, rien à voir. En fait, déjà, on a deux termes dans IA et frugal qui ne sont pas faciles à définir.
Ouais.
Sur le règlement européen IA, les différentes parties ont mis énormément de temps avant d'arriver à une définition qui a fait consensus. Bon, pour ça, c'est bien parce qu'on s'est dit, on va reprendre la définition du règlement européen IA. Après, on s'est quand même posé des questions. Est-ce qu'on prend en compte que l'IA générative, toute l'IA, etc., etc. On s'est dit, on va faire global, on va garder la définition du règlement européen IA. Et ensuite, sur la frugalité, en fait, c'est un terme qui se rapproche un peu du terme de sobriété, qui n'a pas non plus de définition très posée. Et donc, quand on le rapproche de l'IA, il y a certains qui disaient « mais l'IA ne peut jamais être frugale, puisque une IA consomme de l'énergie par essence de toute
base.
Manière ». Et donc, pour eux, dire « frugale », c'était comme dire une IA verte. C'est presque un non-sens de parler d'IA verte, puisque forcément, il y a un impact environnemental derrière. Mais ce qu'on a voulu dire derrière « frugale », on a voulu différencier l'efficacité l'efficience et la frugalité. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, et notamment dans les grandes entreprises du numérique, on nous parle toujours d'efficacité. On nous dit, mais oui, mais on va faire des réductions en optimisant ceci, cela. Derrière la frugalité, ce qu'on voulait aussi mettre, c'était d'abord se poser la question de l'IA. Toujours se dire que l'IA frugale, c'est une IA qui s'est posée, où on s'est posé la question dans la conduite de projet, est-ce qu'on a vraiment d'IA par rapport à d'autres solutions qui sont moins consommatrices.
On va y revenir.
Voilà. Et c'est aussi une IA, du coup, où on s'est dit que le niveau de résultat n'était pas forcément l'enjeu le plus important. C'était la contrainte sur les ressources qui était l'enjeu le plus important. Alors que quand on parle d'efficacité, c'est vraiment le niveau de résultat. On se dit qu'on veut avoir bon dans 99% des cas, et c'est ça qui va driver tout le projet. Alors que dans l'IA frugale, on veut remettre en cause cet objectif.
On sent bien dans
votre... Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité.
Mais bien sûr, Elisa. Allez-y, je vous en prie.
C'est quoi être au monde?
Ah oui, carrément, d'accord. Donc là, Elisa, je vous en ai parlé hors antenne, bah vous demande tout simplement, parce que visiblement, elle voit la liaison entre le frugal, l'environnement, le monde, j'imagine. J'essaie de faire les corrélations potentielles. Est-ce que vous avez... on sort beaucoup de l'aspect CAFNOR, là, pour le coup. Est-ce que vous, de votre point de vue, est-ce que c'est quoi d'être au monde?
Je pense que, bon, déjà, c'est effectivement très dur de répondre à cette question qui est très large.
Désolé, je maîtrise pas du tout cette IA.
Oui, ben, on va dire que si je peux, je vais essayer de faire des rapprochements avec ce dont on parle. Mais aujourd'hui, je pense que être au monde, dans un monde qui voit l'augmentation exponentielle des IA et donc de la consommation énergétique liée à l'IA, mais aussi liée à pas mal de processus, c'est finalement se poser beaucoup de questions, c'est pas mal d'anxiété, et c'est important de se rapprocher donc de projets qui font un peu consensus, qui vont enfin qui essayent d'avancer. Ça permet, en tout cas pour moi, de lutter contre l'anxiété du réchauffement climatique en avançant pas à pas sur des sujets tels que celui-là.
Ça crée un être au monde plein d'espoir.
Exactement.
Bon, bah super, merci pour ces premiers partages. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale. Il faut espérer que les évolutions de l'IA et la réduction de l'impact environnemental de l'IA, comme on vient de se le dire, bah, grâce à cette spec, va de moins en moins opposer les deux mondes. Moi, je vous propose d'écouter donc un morceau qui s'appelle Dual World, les deux mondes, et qui est un beau mariage en fait entre l'électro française, puisque c'est un groupe, c'est le groupe Alta, et le rap US. Et ça ferait vraiment un morceau hyper intéressant à écouter. Nobody had any headgear on. Our palms worn heavy in them sweaty 16s. Our arms more spaghetti than an M16. He wanna hummy with his pops is looking on. I swear the army robbed him of his every charm. Front lawn, he's drinking and hollering, let's get it on. His son was thinking that sparring me would get a nod. I sneaked a three in from the one. I quit instantly, thinking if we bleed then we was done. He didn't see it as a win, but he couldn't see them as they come. And as I turned and tried to leave, he then hit me in my sternum. I wasn't breathing, bent, heaving, seething, needing the moment. He was beaming, chest beating and bleeding from the nose. And yet the feeling of defeating me was fleeting as he rose to see his father drunk and sleeping. And it goes. Born with a pen in the sea for a sword. You will know it's me by the king on the floor. We living in the swordsman, freedom with a sword. Save all the poetry there for the Lord. We're living in the new world. We're living in the new world. We living in a dual world. I'm in love with two girls. One wants me to fight for her, the other in flight for her. They tell me I'm bright, but I still ain't got a light for the darkness in my mind where I find I'm never right for them. Yeah, that's the problem with anxiety ignited by them. They can solve it by absolving, cause it's my problem. You see, the pressure to please means the pressure don't cease. But with my pen, I am your Caesar now. Pleasure me, queen. Outside of pen, I am neither a jester, a king. I rule nothing, a ruler who can't measure a thing. Even my joy puts me in debt, man, I can't leverage a thing. I bet in hell they all sing. I love the pleasurable thing. They try to sell you a ring. Only the profit on the process, not the losses, nor the answer, nor the nonsense. Talking all that sickness and health, taking pictures of themselves. Then they pick on someone else when they get nauseous. Come on. Born with a pen in the sea for a sword. You will know it's me by the king on the floor. We living in the new world. We living in the new world. When you meet a swordsman, freedom with a sword. Save all the poetry there for the Lord. We living in the new world. Sometimes it is what it is, and that's that.
Sometimes you give what you can't get back. When you put your heart on the line, that's flat. Now when I put my heart on the line, that's rap, yeah. Sometimes as kids, we just want to attack before our guard is attacked. When we don't know how to give or how we ought to attach. Eye of the tiger, the fire with fire until we all there tired at the end of the match. And at the end of the match, it's my hand at a safe distance with a pen, imagining we could behave different. Is it really brave or just escapism? Kids play, adults play, you know, hey.
Merci le groupe Alta, vous êtes toujours sur Cause Commune, la radio FM 93.1 à Paris. Toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode où on découvre la spécification AFNOR et les recommandations qui peuvent produire une IA plus frugale avec moins d'impact environnemental. Juliette, on a évoqué donc du coup les définitions. À un moment donné dans les définitions, bah, vous revenez sur quelque chose qui est important et que vous avez déjà évoqué en première partie, qui est la notion de cycle de vie de construction de l'IA. Et pour faire en sorte que chacun des acteurs, j'imagine, compte bien tout ce qui concerne la consommation de l'IA et les impacts de l'IA dans les différents éléments du cycle de vie. Alors c'est quoi le cycle de vie de l'IA qu'il faut, avec toutes les étapes qu'il ne faut pas oublier ?
Oui, alors donc effectivement, quand on fait une évaluation environnementale, ce qui est très important, c'est de parler du périmètre. Donc qu'est-ce qu'on met dedans ? J'en ai un peu discuté au début. On peut facilement oublier des choses, se dire que bah, tout ce qui compte, c'est l'entraînement du modèle final. Finalement, on voit beaucoup de chiffres aussi qui sont publiés. Beaucoup. Il n'y a pas tant de chiffres, on pourrait y revenir. Les données sur l'impact environnemental de l'IA, on n'en voit pas beaucoup qui sont publiques. Mais les quelques chiffres qu'on voit, ils sont focalisés sur l'entraînement qui a un impact important. Mais en fait, aujourd'hui, sur les grands modèles de langage, ceux qui sont disponibles en ligne, tels que ChatGPT par exemple, c'est vraiment l'utilisation qui drive la consommation énergétique parce qu'on a des millions d'utilisateurs chaque jour. Et donc, il faut partir... Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut prendre en compte tout le cycle de vie. Et donc, il faut partir vraiment du moment de lancement, du cadrage du projet, jusque au moment de ce qu'on appelle la fin de vie. Donc dans une analyse en cycle de vie, ça va vraiment du tout début du projet jusque au moment où on se décide que on arrête le projet. Et du coup on peut avoir des infrastructures
à démonter
etc.
qui ont une conséquence environnementale.
Exactement. Et qui, parce qu'en fait, quand dans l'analyse en cycle de vie, il y a à la fois le fait de prendre en compte toutes les étapes, toutes les différentes étapes du cycle de vie, mais aussi prendre en compte plusieurs indicateurs. On parle beaucoup de consommation énergétique, d'impact carbone, mais vous l'avez cité au début, il y a la consommation en eau qui commence à nous faire de plus en plus peur, puisque on voit que il y a sur des data centers une énorme consommation d'eau qui, lorsqu'on est dans des périodes de sécheresse ou de forte chaleur, va venir en concurrence avec d'autres usages. On voit aussi qu'on a de plus en plus de data centers qui s'implantent par exemple en France, mais partout dans le monde, qui fait de la consommation d'espace, souvent d'espace naturel. Et puis derrière, c'est des ressources minières. Derrière l'IA n'est pas du tout immatériel. Il y a tous ces data centers avec à l'intérieur des serveurs et qui utilisent du coup des métaux rares pour être construits. Métaux rares qu'on ne produit pas en France. Et donc, il y a aussi tout un enjeu stratégique autour de ces métaux. Et donc, au maximum, il faut réduire l'impact environnemental de manière globale sur tout le cycle de vie et sur tous ces indicateurs.
Donc la SPEC, elle appuie effectivement sur la bonne compréhension du cycle de vie de l'IA qu'on est en train de mettre en place et tous ces indicateurs environnementaux, donc épuisement des ressources, consommation énergétique, acidification des océans aussi. Et du coup, quel référentiel on utilise, comment on fait aujourd'hui quand on veut, effectivement, on est de bonne foi, on voit tous les cycles de vie de l'IA, on voit tout ce que ça peut provoquer, comment on fait cette mesure, comment on arrive justement à mesurer ces impacts-là, quel référentiel on utilise pour le faire?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a d'abord les données qui sont, je dirais, le nerf de la guerre. Des entraînements de modèles, on peut aller mesurer directement. Donc il y a des choses qu'on mesure très facilement. Par exemple, la consommation énergétique ou la consommation en eau, il suffit d'aller voir les factures d'électricité ou les factures en eau, on a de la donnée, j'appellerais de la donnée primaire. Par contre, par exemple, l'épuisement des ressources naturelles, donc ce que je disais, le fait qu'on utilise beaucoup de métaux, en fait, on n'a pas forcément toutes les données sur mon processeur que j'ai acheté. Ça a coûté tant et tant de métaux. Donc parfois, on a les vendeurs qui mettent à disposition des analyses en cycle de vie, ou parfois on a des organismes privés, publics, qui ont des bases de données sur ces sujets-là qu'on peut utiliser.
Donc, et c'est finalement une matière qui continue à avancer. C'est peut-être aussi pour ça que la recherche, elle est nécessaire dans le travail que vous avez fait et qui c'est pour ça aussi que...
Tout à fait, effectivement, l'impact environnemental du numérique, c'est un sujet qui émerge, qui est fortement encore en construction, on va dire, avec beaucoup de papiers de recherche qui sont publiés assez régulièrement. C'est notamment pour ça que dans l'ASPEC, on a voulu intégrer un certain nombre de chercheurs, parce que on avait besoin de cette base. Si on avait été qu'entre entreprise et administration, je pense qu'il nous aurait manqué un peu de recul en fait sur l'état de la connaissance et sur l'état de la recherche sur ces sujets-là. Comme je disais, il y a les données qui sont très importantes, et ensuite, une fois qu'on a les données, qu'on a les chiffres, il y a comment est-ce qu'on les assemble ? Quel calcul on fait ? Quelle formule on met derrière ? Et ça, c'est ce qu'il y a derrière notre référentiel méthodologique. C'est des indications sur la formule qu'on peut mettre derrière, du coup, pour calculer l'impact environnemental de l'IA. Et enfin, données, formules, et derrière, beaucoup de gens nous demandent des outils. Des outils facilement utilisables pour aller mesurer, mettre les chiffres, et derrière, on a le résultat. Et on peut suivre finalement parfois aussi en temps réel. Et ça, il y a pas mal d'outils qui sont déjà disponibles, qui, avec l'ASPEC, potentiellement aussi vont se rapprocher en termes de méthodologie. Il y a des outils qu'on peut intégrer directement dans du code. Ça, c'est assez intéressant pour des data scientists. Par exemple, Code Carbone, où c'est un package Python qu'on met directement dans son code. Et il y a d'autres outils, je citais Green Algorithm tout à l'heure, qui sont des outils disponibles en ligne, ce qui permet d'estimer aussi a priori des impacts.
Et certainement, les outils vont continuer à se développer au fur et à mesure. Tout. On voit, vous avez une base scientifique, une base référentielle des définitions. Et tout ça, ça vient appuyer 31 bonnes pratiques. Alors, on va pas toutes les citer ici, on n'aura pas le temps. Donc, on va inviter nos auditeurs à aller voir les bonnes pratiques et à en prendre connaissance. Par contre, du coup, ça permet ces bonnes pratiques de mettre en évidence 7 thématiques de passage à l'échelle. Ça, par contre, on peut peut-être évoquer les grandes thématiques du passage à l'échelle. J'ai envie de faire bien, j'ai envie d'utiliser les bonnes pratiques. Du coup, je commencerai par quoi, par exemple ?
Alors, on va commencer par le début.
Oui, pourquoi pas.
Quand on se lance, déjà, quand on cadre le projet, je le disais un peu au début sur le fait de se demander est-ce qu'on a réellement besoin d'IA. Toute cette phase de cadrage de projet, au départ, il y a des bonnes pratiques sur ça. Sur comment est-ce qu'on envisage donc le projet, on identifie le besoin et derrière, on met des indicateurs à suivre tout au long du projet sur l'impact environnemental.
Ne pas faire de l'IA pour le plaisir, quoi.
Exactement. Et derrière, penser aussi quelle IA on a besoin. Est-ce que c'est vraiment une IA générative, un grand modèle de langage ? Est-ce qu'on a besoin de mettre un modèle GPT ou un tout autre modèle de langage derrière notre outil ? Ou est-ce qu'un petit modèle de machine learning suffit ?
La question de la technologie utilisée, d'accord.
Oui, tout à fait. Ensuite, il y a plusieurs choses. Il y a des choses sur les données. Donc, les données d'entraînement sont aussi souvent le nerf de la guerre. Je parlais des données tout à l'heure pour l'impact environnemental, ouais. Mais en fait, pour l'entraînement de l'IA, c'est aussi un sujet très important. Et en fait, on a tendance à se dire, il nous faut beaucoup de données. Il nous faut plein de données. Il faut qu'on scrape tout ce qu'il y a sur Internet pour faire le meilleur modèle. En fait, pas forcément. On voit que quand on choisit bien ces données,
bien structurées,
de bonne qualité, etc., on a des meilleurs modèles qui aussi sont beaucoup plus fiable. Donc, c'est intéressant d'aller voir, de se restreindre aussi donc sur la quantité de données, se restreindre donc sur la complexité des modèles, on en a parlé, de penser aussi du coup les infrastructures qu'on met derrière, de combien de GPU on a besoin, est-ce qu'on a besoin de les faire tourner en permanence, est-ce qu'on les fait tourner de manière différenciée selon, par exemple, les moments où le réseau énergétique est beaucoup plus pris. Et derrière, donc ça, c'est des, on va dire, il y a pas mal de bonnes pratiques qui sont sur le côté technique des choses, sur la manière de coder, sur la manière d'optimiser, sur les données, sur les ressources. Et derrière, il y a aussi des bonnes pratiques qui sont plus globales, qui sont sur vraiment la conduite du projet. Donc, je l'ai dit au début, mais aussi tout au long du projet. Sur la gouvernance, être capable de se poser la question, est-ce qu'il faut toujours y aller ? Et des fois, se dire que il faut potentiellement arrêter le projet lorsque on voit que l'intérêt n'est pas si fort que ça pour l'organisation.
Bon, on recommande à nos auditeurs donc du coup d'aller se co-documenter auprès de l'ASPEC AFNOR IA Frugal. Si vous deviez faire une recommandation particulière à quelqu'un qui se lance dans un projet d'IA sur ce sujet-là, vous lui diriez quoi en premier ?
Alors, c'est une bonne question, mais peut-être la première chose, je pense que le référentiel méthodologique sur le calcul, il peut être plus peut-être dur à lire, pourtant c'est notre chapitre 2, mais le chapitre 3 est du coup sur les bonnes pratiques, les 31 bonnes pratiques, et celles-là je pense qu'elles sont assez abordables et elles ont été pensées finalement dans la continuité, donc commencer par lire ces bonnes pratiques au fur et à mesure, je pense que c'est un bon début.
Sans se faire peur avec les éléments
trop techniques. Sans se faire peur tout de suite avec effectivement les éléments techniques d'évaluation environnementale.
Très bien, c'est l'heure de conclure. Merci beaucoup Juliette Fropier. Et du coup, retrouve l'aspect sur le site d'Ecolab, greentechinnovation.fr/Ecolab. Merci pour tous ces partages. Bonne route à l'IA frugale. C'est top que la France montre la voie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Vous pouvez aller écouter si vous voulez, par exemple, Rayon Libre pour écouter Jérôme. Et puis, là, tout de suite, c'est les lapsus de l'actu parce qu'on est samedi matin. Allez, bon appétit. À bientôt.